cellule au premier étage. Je te réinstalle. Sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tôle. Y'a du bastou dans la tôle. Y'a du bastou dans la tôle. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas sont commencé à l'aile gauche de la tôle. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Café les mecs, ça va saigner. Dans les gars suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Tu as fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Y'a du baston dans la tôle. Tu as fait les mecs, ça va saigner.
Bonjour, vous êtes bien sur FPP et je vous souhaite une bonne émission.
Merci beaucoup, vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée. Je vais rappeler le numéro de téléphone qui est le 07 53 10 31 95 pour le portable de l'Envolée, joignable 7 jours sur 7. Et pour nous appeler en direct, c'est au 01 40 05 06 10.
Bon, on espère parce que pour l'instant ça ne marche pas très très bien.
Moi, on m'a dit que c'est pas
l'info
que j'ai
aussi. J'espère aussi.
C'est la mise à jour.
J'espère que ça fonctionne. Et puis on va laisser Alex
faire le fil
de l'émission. Parce que moi, je suis pas du tout à la page. Je suis indisciplinée et j'adore ça.
Ouais, donc on est bien sur l'Envolée 106.3 tous les vendredis 19h à 20h30.
Crâneur.
Ouais, bah non, mais tu vois, vu que tu viens pas très souvent en ce moment, j'ai l'impression des fois que tu oublies un peu les queues trucs, quoi.
Bon, ça me va.
Et pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, l'envolée-fpp. On rappelle que le journal, il vient de sortir. Et donc, il faut pas hésiter, c'est gratuit pour tous les prisonniers et prisonnières. Faut nous envoyer le numéro d'écrou, la tôle où vous êtes, et on vous l'envoie direct, quoi. Donc là, on est censé avoir une grosse émission, en tout cas si le téléphone remarche. Sinon, l'émission va être beaucoup plus freestyle. On va commencer
j'ai plein de chansons. Paillarde.
Donc voilà, on est impatients, ça fait 4 ans qu'on attend que Sylvia nous chante enfin ses chansons qu'elle nous fait hors direct.
En fait, c'est toi qui as saboté le téléphone.
Et donc discrètement, j'ai saboté le téléphone. Il y a Lucien qui s'arrache les cheveux, il n'a toujours pas trouvé la pièce que j'ai enlevée. Donc voilà.
C'est bon en fait.
Mais,
le câble est coupé.
Mais donc, ouais, on a une grosse émission parce qu'on a plein de coups de fil d'un peu partout. Ah. On allait commencer déjà par.
Ouais, non, déjà par un appel d'un copain de Marseille, voilà. De Greg. On va revenir sur la situation de Claudio Lavazza, dont on a parlé la semaine dernière. On rappelle qu'il aurait dû être libéré déjà depuis un mois, le 11 décembre, après plus de 25 ans de prison. Dans le fil, pour celles et ceux qui sont dehors et qui ont Internet, il y a son numéro d'écrou, l'adresse pour lui écrire, qui est disponible avec la dernière émission, et on le mettra aussi dans le fil de cette émission. Après, on va recevoir un autre appel, cette fois-ci de Charlotte, qui est la compagne de Jimony, qui s'est fait tuer par des matons l'année dernière, le 19 janvier, à Meaux. C'est une histoire qui est un peu particulière, parce que ça a fait beaucoup de bruit au niveau des médias. Enfin, il y a eu un gros truc, et il y a eu une grosse marche l'année dernière pour Jimony et pour réclamer la vérité, où il y avait plusieurs milliers de personnes, en tout cas plus de 1000 personnes, quoi. Un truc qui arrive pas si souvent.
Devant la prison de Meaux.
Devant la prison de Moshokana.
Quelques jours même après qu'il ait été tué par les matons. Elle organise un rassemblement, enfin elle et les proches et la famille organisent un rassemblement mercredi à midi devant le tribunal de Meaux, parce que les matons qui ont été dénoncés par leurs collègues sont toujours pas mis en examen. Donc c'est toujours les mêmes histoires, hein. Vous allez voir que
ce qui veut dire que s'ils sont toujours pas mis en examen, c'est qu'ils sont encore en fonction dans cette même prison où ils ont... où ils ont clairement assassiné Jimony.
Et de toute façon, même s'ils seront mis en examen, ils vont continuer à exercer là-bas. On vous a fait un peu le compte-rendu du procès des meurtriers de Sambali. Et on voit bien qu'en fait, ça ne gêne pas l'administration pénitentiaire de continuer à mettre des gens en fonction là où ils ont tué des gens. Suite à ça, on va aussi avoir un dernier appel d'une proche. On en a parlé vite fait la semaine dernière. Il y a eu un mort récemment à la tôle de Villefranche. Et c'est quelqu'un qui est mort par refus de soins, en fait. C'est quelque chose dont on parle souvent dans ces émissions. Il y a plein de manières pour l'administration pénitentiaire de tuer des gens. Il y a la violence des matons, mais il y a aussi en fait, le refus de soins, le fait de pousser les gens au suicide. C'est tout un peu toutes ces manières qu'a la tôle de tuer. Et donc là, on va revenir là-dessus et on va aussi faire un petit appel à témoignage pour que les prisonniers de là-bas puissent relayer un peu ce qui s'est passé. Parce que comme on le dit souvent ici, en fait, les histoires, elles sortent pas si c'est pas les prisonniers qui font sortir, ces infos, quoi. Alors, juste pour commencer l'émission, très rapidement, on va peut-être juste dire qui y a autour de la table.
Ah oui,
il y a Serge qui s'est barré, mais qui vous salue vachement. Il y a Hugo qui est avec nous.
Salut.
Il y a Sylvia.
Salut, salut.
Ça fait trop plaisir de te revoir.
Merci beaucoup. J'ai l'impression que ça fait 100 ans.
Moi, je te reconnaissais plus. Hein.
Et moi aussi, quel plaisir.
Ok. En tout cas, il y a Vincent qui est là et une autre pote qui est avec nous. Et ça fait plaisir qu'il y ait du monde sur le plateau. Parce que, quand même, je ne sais pas si vous avez entendu les émissions depuis septembre, on s'est quand même assez souvent retrouvés à 2, 3. Et que pour faire tenir cette radio, pour que ça continue d'être un espace à la fois de discussion, un espèce de parloir après les parloirs, etc., on a besoin en fait qu'il y ait du monde.
Donc si t'es ancien tolard, proche de prisonnier, quelqu'un qui pense que la prison c'est de la merde et que à part détruire et broyer. Elle ne sert pas à grand-chose. Viens dès, mon poteau.
Ouais.
Viens nous rejoindre.
Donc en fait, elle sert vraiment à quelque chose parce qu'elle fait fermer notre gueule à pas mal de monde en fait. Exactement. Dehors. Et que ça nous force à accepter des salaires de misère, encore plus à l'intérieur, mais aussi dehors.
Tout si tu as une expérience carcérale, quelle qu'elle soit, que ce soit proche de prisonnier ou toi-même, il est important que tu viennes transpirer la douleur que tu as eue à l'intérieur ou que tu as pu voir. Donc voilà, mais si t'es aussi contre la tôle, t'es aussi bien évidemment le bienvenu, puisque
Voilà. Donc pour celles et ceux qui sont
c'est
dehors,
une mission à tous et à toutes.
Qui voudraient nous rejoindre, faut pas hésiter à appeler le numéro, je le rappelle, c'est le 07 53 10 31 95. On sera hyper réactif, contrairement à début janvier.
Bah oui, mais même par contre, il faudrait que les gens arrêtent d'appeler à minuit. Parce qu'après, quand je rappelle, ça répond pas.
Mais... Alors, ceux qui ont le portable en ce moment, ça dépend. Ça dépend. Il y a des fashion et des vieux, tu vois. Donc faut, si t'as de la chance, tu tombes sur le fashion.
Mais en ce moment, c'est pas le cas.
Pas moi.
mais voilà. Mais donc, en tout cas, non, mais en vrai, c'est important parce que bah, cette émission, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle existe. Il y a énormément de personnes qui sont passées à cette antenne, plein d'équipes différentes et tout ça, plein de gens qui sont passés de manière ponctuelle, d'autres qui sont restés plus longtemps, d'autres qui sont passés, puis revenus, puis repassés, puis voilà. Et ça vit grâce à toutes ces énergies voilà, qui se mettent ensemble. Ça, nous, on est vachement portés par l'énergie que, des luttes qui se passent à l'intérieur. Voilà, et c'est ce qu'on disait aussi à la fin de l'année dernière et tout. Mais pour les relayer, il faut quand même qu'on soit un certain nombre. C'est pas mal de taf. Voilà, c'est aussi du temps. À passer en commun, ensemble et tout ça pour comprendre comment ça se passe quand on est un peu plus éloigné de la prison et tout ça. Et donc ouais, ça nous semble important que ça continue à vivre. C'est pas pour dire que ça va s'arrêter s'il y a personne qui le rejoint, mais c'est juste pour dire que voilà, c'est important que ça vive avec d'autres personnes et plus de monde. Et nous, on continuera, voilà, mais on sait que ça peut pas tenir plusieurs années encore sous cette forme-là. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un appel maintenant pour que voilà, il y ait des rencontres qui se passent et qui soient cool. Et voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, bah, il y a ce numéro de téléphone et puis vous pouvez aussi passer un peu de manière impromptue les soirs. Ah, ouais, pardon. Désolé, ouais, déjà la semaine dernière, j'ai commencé à déconner. La semaine dernière, j'ai parlé latin à l'antenne.
Ah, ouais.
Non, j'ai juste dit un mot. mais voilà. Mais donc voilà, vous pourrez vous foutre de ma gueule si vous venez de manière impromptue à l'antenne ici. Voilà. Non, mais donc n'hésitez pas à passer. C'est aussi un rue de la solidarité. Enfin voilà, c'est les deux manières si vous voulez passer. C'est important, et même si, pareil, enfin, tu vois, on se connaît déjà parce qu'on s'est déjà croisé dans les luttes et tout, en fait, et qu'on t'en a jamais fait la proposition formelle, voilà, faut pas.
Ouais, parce que souvent, on dit qu'on est très dur à approcher. En fait, les gens osent pas, et je pense que. Je pense que vous avez raison. Non, je plaisante. Non, sincèrement, ça prouvera qu'on nous écoute et qu'on nous apprécie. Et donc, déjà,
du coup,
c'est.
Là, on a la pression s'il n'y a personne qui vient.
Clairement.
S'il n'y a personne qui vient, je vous pète votre gueule, les gars. Tous là. Non, je plaisante.
Et en tout cas, c'est hyper facile d'accès. Moi, je sais pas, j'ai contacté l'émission il y a deux mois, peut-être par mail.
Et t'es déjà là, toi ?
Ouais. Et voilà, à une vitesse dingue. Et puis, c'est trop cool. Donc, merci aussi à Mort pour l'accueil.
Ouais,
donc, voilà, belle équipe.
Merci à toi surtout.
Donc voilà, ça c'était le côté promotion. Et si voilà. Ça marche pas, on va commencer à faire
maintenant,
ça à toutes les émissions.
Dans le côté dépression.
Donc, voilà.
Dans le côté promotion aussi, c'est important de parler du journal dont on a dit un peu et tout ça. On le présentera plus longtemps la semaine prochaine. Mais en tout cas, ça y est, il est disponible dans beaucoup de librairies un peu partout à Paris.
La moitié à Paris.
Et voilà, mais donc en tout cas, faut pas hésiter. Et c'est pareil, si vous avez des proches à l'intérieur qui sont encore intéressés, tout ça, on continue bien évidemment à l'envoyer. Et pareil pour le bouquin et tout.
La peine de mort n'a jamais été abolie. Du coup, là, on va.
C'est le cas de le dire qu'elle a jamais été abolie, puisque la preuve en est.
Vu l'émission de ce soir.
Ouais, ou toutes les émissions depuis septembre, en vrai. On parle beaucoup, beaucoup de ça. Et du coup, là, on est censé recevoir un appel de Marseille.
Mais avant, on va lire la petite lettre de. Okay. Non.
Ouais, carrément. C'est bien, on prépare bien les émissions.
En vrai, tout était prévu pour moi.
Ouais,
donc voilà. Non, on va donner des nouvelles de Romain. Voilà, Romain. Sylvia, tu veux peut-être le présenter, ce sera plutôt.
Qui ça?
Romain.
Romain. J'ai un truc de mémoire là, j'ai
Non, Romain, c'est quelqu'un qui s'est battu beaucoup, qui s'est beaucoup battu à l'intérieur. Il y a Adeline qui appelle assez.
Putain, Romain. Ah ouais, mais dites-moi, Romain, Adeline, vous me sortez ça comme ça. Alors, je vous explique, j'ai pas la conduite de l'émission en vrai. Je suis arrivée les mains dans les poches. Vous me connaissez, je fous rien. Donc, effectivement, je suis tombée d'un immeuble de 50 étages. Si, effectivement, on parle de Romain Leroy qui a fait cette prise de parole à Valence en 2000. J'ai un trou de mémoire, par contre, pas vraiment. 2016.
Ouais, je crois que c'était ça, ouais, c'était 2016.
Et quel cerveau. Et donc, qui est aujourd'hui
à Moulins. Il est à Moulins.
Alors, faut savoir que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, que c'est très compliqué, autant pour lui que pour sa femme et sa fille, qu'ils sont obligés de, parce que sa femme le suit partout dans toutes les taux où il est. Donc quand il part à Réau, elle va sur Paris. Quand elle vient vivre, il faut qu'à chaque fois, c'est retrouver un appartement, retrouver un travail. Je félicite cette femme qui a mille vies derrière elle et qui lâche rien. Et vraiment un grand respect.
Ouais, puis on te prévient pas hein, quand il y a un transfert.
Non.
On parlait de Yuri la semaine dernière. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. Soi-disant pour éviter les évasions ou je sais pas quelle connerie encore sécuritaire. En fait, ils organisent les transferts le jour du parloir, alors que t'as fait 8000 bornes depuis la Guadeloupe. Enfin, et du coup, quand on dit elle change sa vie, c'est qu'en fait, des fois, elle est pas du tout au courant qu'il va être transféré, ni quand, mais qu'à tout moment, ça peut se passer, quoi.
Et ça, alors ça, il trouve l'excuse que c'est pour éviter les évasions. Voilà, c'est l'excuse que trouve l'administration pénitentiaire pour donner... Et puis ça reste toujours la même histoire. Il ne faut pas oublier que quand ces familles ne sont pas au courant de ce transfert, ça arrive régulièrement quand tu as un parloir. Et donc, tu fais 800 km pour voir ton mari et on t'apprend que tu as perdu ton parloir, ton mari est dans une autre prison et que le mec de l'accueil il n'est pas capable de te dire dans quel taux il est. Donc, c'est à toi d'appeler la SPIP ou d'attendre que tu reçois un coup de fil. C'est tout le temps une vraie galère et une vraie angoisse. Donc, Romain a été transféré à Moulins.
Ça fait déjà plusieurs mois.
De Arles à Moulins, ça fait plusieurs mois. Et ça se passe pas très, très bien. Parce qu'ils lui font toujours payer cette prise de parole à Valence. Et ils n'acceptent pas, en vrai, que cet homme ne se laisse pas faire sans rien dire. Voilà.
Bah, la dernière galère qu'ils lui avaient mis, en fait, c'est que quand il a été transféré d'Arles à Moulins, ils lui ont dit « Ok, mais par contre, pour tes affaires, c'est 180 balles. » Et du coup, en fait, tout d'un coup, on demande de raquer 180 euros pour obtenir le transfert en fait, d'affaires que tu as payé à l'intérieur ou de souvenirs, enfin de trucs qu'on t'a ramené, quoi. Donc c'est, bah, voilà, c'est un racket qui est mis en place assez régulièrement par l'AP, hein, c'est pas le seul.
Et c'est un vrai racket parce qu'il faut savoir que toi, quand t'es prisonnier, t'as pas accès à ton compte bancaire. Mmh. Et donc t'es obligé de demander au surveillant de l'aile du jour de excusez-moi, surveillant, pourrais-je avoir mon pécule, s'il vous plaît, aujourd'hui? Donc il te l'amène selon son bon vouloir. Évidemment, puisque c'est verbal et que t'as pas de preuve de l'avoir demandé. Donc ils savent très bien ce qu'ils ont sur son compte.
Et sinon, ça t'es proche de raquer, quoi. Et en fait, tes proches, ils payent déjà pour aller en parloir le prix des billets. Ils payent déjà tout un tas de queutrues pour aller laver tes fringues, etc., etc. Et là, on leur redemande de cracher 180 euros. Et on sait tous que c'est la galère pour tout le monde en ce moment. Et que quand tu manges 180 euros, en fait, c'est juste pas possible. Pas quand tu payes déjà, je sais pas combien d'allers-retours par mois pour aller en parlu, quoi. Et du coup, là, on va vous lire sa lettre. Elle est très rapide.
Et juste en parlant de racket, devinez ce qu'ils ont réussi à faire payer dans certaines tôles dans le sud.
Ils font payer les bons de cantine.
C'est ça.
C'est-à-dire les feuilles.
Ouais, les feuilles. Alors, soi-disant pour l'écologie, parce qu'il y a des bons de cantine qui ne sont pas remplis. Et ça peut aller, genre, attends, je crois que c'est entre 5 et 10 centimes la feuille. Il y a 9 feuilles et ça peut monter à 60 centimes pour obtenir ton bon de cantine.
Alors, faut savoir que quand ils distribuent les bons de camping.
Juste pour rappeler, c'est quoi un bon de cantine? C'est quand il n'y a pas de magasin ni quoi que ce soit en détention. Donc, c'est la fiche sur laquelle tu vas demander je veux tant de paquets de clopes, où il y a tous les trucs que tu vas pouvoir acheter et tout ça. Et
généralement, donc, chaque jour. T'as une cantine différente. Par exemple, le lundi, c'est cigarettes. Le mardi, c'est papeterie. Le mercredi, c'est pharmaceutique. Voilà, produits frais. Voilà. Et en fait, pour pas se prendre la tête, les surveillants, ils viennent et te donnent tous les jours les bons. C'est à eux de demander de faire un travail en plus et dire qui a besoin d'une cantine. Et là, ça éviteront. C'est très grave ce qu'ils ont fait encore là.
Bah, c'est très grave. Et en plus, en fait, quand t'as pas de papier à l'intérieur, par exemple, nous, on en a déjà reçu plein, des lettres comme ça. Ouais. En fait, t'écris sur le bon de cantine. Et du coup, c'est vraiment une manière à la fois de racketter des prisonniers et en même temps d'empêcher les prisonniers les plus pauvres d'écrire à l'extérieur, quoi. Parce que tu dois en plus payer ton papier.
Tout ça, c'est volontaire. Hein.
Tout ça, c'est volontaire. Et juste pour dire, parce que c'était l'OIP, je crois, qui sortait cette info, parce que des fois, ils sortent des infos. Voilà. Mais en fait, juste pour dire, c'est une pratique qui date depuis 99 au moins, parce qu'ils parlaient d'une tôle en 99 qui faisait payer 15 centimes. Pareil, le bon de cantine, quoi. Et donc, c'est pas un truc qui est généralisé, etc. C'est au bon vouloir de la direction. Mmh. Et c'est hyper grave. Et ça va dans un même temps avec la numérisation des bons de parloir. Eux, ils ont lancé un plan.
Ils vont payer leur uniforme. Non, mais franchement.
Bah, ils sont en train de lancer un plan, en tout cas numérique en tôle, où maintenant, il n'y aura plus de bons de cantine, mais il y aura des bornes où tu iras cantiner, quoi. Et en fait, c'est pareil, ça veut dire que les gens, ils auront moins accès à du papier, qu'il faudra, il faut déjà savoir lire et écrire pour cantiner. Et en plus, il faudra gérer le numérique. Ouais, donc, pour tous les gens qui sont béton avant ou qui ne sont pas à l'aise. Et en fait, la fracture numérique, on sait qu'il y a plein de gens qui ne sont pas à l'aise.
Il y en a qui sont en prison en France depuis avant le Minitel.
Exactement. Bah, y a pas mal de monde quand même qui a vécu le passage à l'euro en tôle et qui le découvre voilà, au fur et à mesure. Quoi. Et du coup, c'est hyper grave et ça va dans le même sens. Quoi. Et donc, c'est important de le dénoncer. C'est important aussi que ça s'arrête le plus rapidement possible, ce racket. Quoi.
On va lire la petite lettre de Romain et puis on aura Adeline au téléphone dans deux semaines à cette antenne.
Une lettre que Romain nous a écrite le 9 janvier du centre pénitentiaire de Moulins-Isère. Salut l'envolé, meilleurs vœux. Désolé de ne pas vous avoir écrit avant, mais j'ai toujours pas mes affaires. J'ai pas fini de payer. C'est un peu la misère. Toujours pas de travail. Mais je prends sur moi. Et vous, comment allez-vous? J'écris pas terrible, mais bon. Prenez soin de vous, Romain, qui nous remercie pour le livre. Et qu'on remercie pour cette lettre.
Bah si, t'écris très bien, mec. De toute façon, qu'est-ce que tu veux dire de plus tu vois. En tout cas, force à toi, force à Aline, force à ta petite fille qui va encore changer d'école, qui va, voilà.
Bah ouais, et on continuera de donner des infos. Comme tu disais, la dernière émission du mois, c'est l'émission qui est enregistrée. Et là, il y aura un entretien avec Aline et on reviendra un peu plus en longueur là-dessus, quoi.
On a quelqu'un au téléphone ?
Allô, allô ?
Salut.
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 Mais qui êtes-vous ?
Je suis votre ami de Marseille, vous
voyez. Ah, cool.
Celui qui a la voix qui chante.
Ah.
C'est ça.
Comment tu vas ?
Ça va pas mal depuis la semaine dernière. En fait, je pensais pas avoir à vous rappeler aussitôt pour parler de Claudio Lavazza, mais il y a eu déjà du mouvement depuis la semaine dernière. Et vous m'entendez toujours ?
Oui, oui.
Ouais, grave.
Ok. Donc en fait, il y a déjà eu du mouvement entre ce que je racontais la semaine dernière et cette semaine. Du coup, je rappelle vite fait qui c'est Claudio, peut-être. Hein. Très rapidement. Et vous m'entendez ?
Ouais, on t'écoute.
Ah, ok, j'ai aucun retour quand on dit.
Donc, du coup, très concentré.
Du coup, Claudio, pour rappeler très rapidement, c'est quelqu'un qui avait pas mal participé en Italie à la lutte armée des années 70, qui était parti en clandestinité, qui avait un peu, en Europe, financé différents mouvements de soutien, fait différentes actions, il avait libéré des camarades de prison et tout ça. C'est un anarchiste, hein. Et il s'était fait attraper à Cordoba, dans le sud de l'Espagne, en 96. Il avait pris 25 ans de prison là-bas. Enfin, il avait pris 25 ans de prison là-bas. Il a été transféré en France parce que l'État français le demandait, il y a 8 mois. Et donc, ça fait 8 mois qu'il est en France, dans une situation un peu bizarre, parce qu'il a été condamné à 10 ans par contumace. Et il y avait une histoire de cumul des peines et machin, mais il est toujours pas sorti depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Donc ça, c'était la situation déjà la semaine dernière. La date de libération, c'était le 11 décembre. La dernière date de libération, 11 décembre 2021, mais il n'a toujours pas été libéré. La procureure de Mont-de-Marsan, elle est un peu sur le dossier. Et depuis les 8 mois que Claudio est en France, elle essaye un peu de chercher des prétextes pour rajouter un peu des trucs. Enfin, chaque fois, en fait, elle veut pas le laisser sortir, quoi. Donc, il y a l'histoire de cumul des peines qui avait pas été bien claire. Et en fait, mardi dernier, là, le 11 janvier, mardi de cette semaine, elle annonce d'un coup qu'elle demande 50 plus pour Claudio. Lui, il a été, en fait, elles sont dans son raisonnement, c'est qu'il a été condamné pour un homicide en Espagne. Il a tiré sur des policiers, il a été condamné pour ça. Et en fait, allô?
Ouais, on est là, on t'entend.
Ouais, ok. Du coup, la condamnation maximum en Espagne, c'est 25 ans. Mais en France, la condamnation maximale pour homicide, c'est 30 ans. Donc elle dit, en fait, il faudrait qu'il fasse 50 plus, parce que c'est comme ça, parce qu'en France, c'est 30 ans. Une sorte d'interprétation un peu fausse là du droit français ou européen international, mais en fait
mais c'est pas légal ça
pardon
c'est pas légal ça. Il a été jugé, elle lui remet 5 ans.
Ben exactement, en fait, ça ressemble un peu à une sorte d'excuse pour gagner du temps. En fait, surtout, il a été jugé, mais surtout, l'homicide, il a eu lieu en Espagne, en 1987.
Il
n'a pas
lieu
en France, donc en fait, il a été jugé selon la loi espagnole. Ouais. Il a fait ses 25 ans, et voilà, quoi, il devrait être libéré, quoi. Et de toute façon, en fait, même s'il avait été condamné à 30 ans, en gros, 30 ans, on a calculé 59 mois de remise de peine. Donc, en fait, même s'il avait été condamné à 30 ans, il serait déjà dehors. Parce qu'en fait, le reliquat qui lui reste là pour faire 30 ans, genre 3 ans et quelques, en fait, ça serait déjà compris dans les 59 mois de remise de peine. Donc, en fait, de toute façon, il devrait être déjà dehors.
C'est bon. Elle distribue des peines comme si elle distribuait des images, quoi. C'est incroyable de voir des choses comme ça, de jouer avec
voilà,
des gens.
Là, c'est plus des trucs administratifs pour bloquer les procédures, quoi. Ouais, mais donc l'avocat, il a déjà posé un recours à la cour d'appel de Pau. Voilà. Mais en gros, en fait, le truc, il y a un truc quand même, une petite quand même lueur d'espoir. En tout cas, c'est une possibilité qui s'ouvre parce que en fait, en faisant ça, elle oblige la cour d'appel à se pencher sur le cas de Claudio. Et la cour d'appel, elle a 15 jours pour donner son avis. Donc en fait, elle est obligée de regarder un peu ce qui se passe. Sinon, si la procureure n'avait pas fait ça, en fait, on serait dans une sorte de limbe qui fait que Claudio, il devrait être libéré, mais il est encore en prison. Et puis en fait, il n'y a aucune vraiment procédure judiciaire sur le cas, quoi. Et là, en fait, le fait que la procureure pose ça, ça fait que la cour d'appel de Pau va être obligée de se renseigner, de regarder un peu, d'ouvrir les dossiers, de voir. Et elle a 15 jours pour donner sa décision. Donc en fait, c'est une possibilité qui s'ouvre d'un côté, de dire, en fait, on va voir dans 15 jours la décision de la cour d'appel de Pau, qui on espère sera plutôt dans le bon sens, sera positive.
Bah, il serait temps, quoi. C'est-à-dire, en fait, déjà, là, on lui a volé 25 ans de sa vie. Et là, on est en train de lui gratter des mois supplémentaires, alors que juste, il doit être dehors. Donc, il y a un moment, même selon leurs règles à la con à eux, quoi. Enfin, du coup, juste, il y a un moment, il faut s'arrêter dans le délire. Enfin, on peut pas.
Exactement, quoi. Ouais, ouais.
Puis, pire, ça ressemble quand même très fortement à une petite entourloupe pour réussir à gratter quelques mois, quoi. Parce que. Mais c'était un peu ce que tu décrivais déjà la semaine dernière, quoi. Et ils vont essayer de gratter le maximum de jours parce que, je sais pas, ils considèrent que c'est pas suffisant. Ou, enfin, tu vois, on sait pas ce qu'a la proc dans la tête. Voilà, mais c'est complètement fou, quoi. Enfin, c'est complètement fou, c'est hallucinant. Quand on en reparlait, ça me faisait penser aussi à une affaire dont on avait discuté ici il y a un peu plus de 2 ans maintenant, parce que c'était en 2019, qui était l'affaire de Vincenzo Vecchi, qui avait été arrêté pendant l'été donc 2019 en Bretagne, ou
2019.
Et voilà, et qui est toujours en fait parce que donc la question c'est savoir est-ce qu'ils vont l'extrader en Italie ou pas. Là, vous retrouverez en septembre, on avait fait une émission à l'époque. Et donc là, il est toujours en fait, même s'il a été libéré au bout de quand même 6 mois, si mes souvenirs sont bons, il y a encore des procédures en fait, voilà, parce que les lois coordonnent pas vraiment et tout ça. Donc ça fait qu'en fait là, depuis plus de 2 ans, il vit avec cette épée de Damoclès sur la tête de se retrouver potentiellement renvoyé en Italie et sous le coup de 12 années de prison et tout. Et c'est insupportable et tout ça parce que chacun des petits juges là va faire sa propre interprétation de la loi au plus sévère possible, quoi. Voilà. Alors que je me souviens très bien que c'était absolument très clair ce qu'il y avait écrit dans leur loi, voilà. Mais vu que ça ne convenait pas à ce petit juge, il disait « Ah non, moi je l'interprète de cette manière-là ». Et donc là, ils se retrouvent à ce que ça aille jusqu'à la Cour de justice européenne, donc un truc de ouf, quoi, enfin, voilà, pour parler de ça. Et donc là, il y aura un procès qui aura lieu le 20 janvier pour coordonner un peu toutes les lois, parce qu'un petit juge a décidé de lire une loi de manière encore plus sévère que de la manière dont elle a été écrite, quoi.
Ce qui est scandaleux, parce qu'en vrai, ça coûte des thunes, hein. ce genre de procédure pour nous, en fait. Parce que eux, on s'en fout de ce qu'ils mettent, mais par contre, nous, aux proches, etc., ça coûte des thunes. Et ça fout vraiment le seum, quoi. Ça rappelle aussi que le même pays, quoi, l'Italie et la France, sont en train de négocier l'extradition d'anciens membres des Brigades Rouges. Plus de 30 ans ou 40 ans après les faits, c'est-à-dire des gens qui ont fait leur vie en France, qui ont leur typé en France, enfin bref, tout le délire. Et que je crois que c'est aussi en janvier que doit être rendu un truc de. Une décision sur leur extradition, quoi. Et donc on est quand même, c'est un peu ce qu'on disait, en fait ça fait des années qu'il y a des pratiques comme ça, mais on est quand même sur un moment où ils sont en train de tester, même de revenir sur des victoires qu'on avait obtenues il y a 40 ans, pour essayer d'obtenir des extraditions et des vengeances d'État, de la même manière que pour Claudio Lavazza, en fait c'est une vengeance d'État, parce que ça fait 25 ans le truc, tu vois, où le braquage, tu vois, enfin dont on parle en là, France.
Le braquage en France, il a été condamné, c'était en 1986, quoi.
Voilà, enfin juste il y a un moment faut arrêter, quoi. Enfin, tu vois, genre on parle de 86, moi j'étais pas né, enfin tu vois, juste il y a un moment faut peut-être se calmer, quoi. Et c'est fou, non, quoi, c'est
ça,
logique.
Il y a le fait qu'elle essaye d'interpréter la loi en se basant sur des faits qui ont eu lieu en Espagne aussi, quoi. C'est ça aussi qui a un peu rien à voir dans le truc. Mais bon, comme on disait, en fait en faisant ça, elle ouvre quand même une au moins ça lui permet de pas signer l'acte de libération, mais en même temps ça ouvre quand même un nouvel épisode judiciaire, en fait, qui on espère se terminera bien.
Donc là il faut attendre 15 jours encore, c'est ça?
Normalement je vous rappelle dans 15 jours.
Okay. Est-ce que tu as le numéro d'écrou?
Ouais, on va redonner pour lui écrire, c'est Claudio Lavazza, son numéro d'écrou c'est le 118 18. Donc CD1, cellule 5, 1D, c'est au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, chemin de Pémégnan, boîte postale 90 629 et 40 000 Mont-de-Marsan. Voilà, puis sinon il avait publié un bouquin qui s'appelle Ma peste de vie aux éditions La Soifée, donc voilà, si vous le cherchez.
Et c'est important de lui écrire pour faire voir qu'il a du soutien, qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas pourquoi il est encore à l'intérieur et qu'il faut laisser sortir ce bonhomme là, bonhomme.
Et du coup, dans les 15 prochains jours, c'est vraiment très important.
Pas grave.
Greg, tu voulais rajouter un petit truc?
Ouais, je voulais rajouter, comme Sylvia disait, c'est important de lui écrire pour lui dire bonjour, pour lui donner du courage, de la force, et puis pour montrer aux matons et aux gens autour de lui que Claudio n'est pas tout seul, qu'il y a plein de gens. Et il y a d'ailleurs, en fait, une mobilisation qui a eu lieu, hein, tu vois, qui se continue un peu. Il y a eu des échos en France, en Grèce, au Chili. Bien. Et voilà. Et le dernier petit mot que je vais rajouter, c'est déjà un grand saludo à Claudio, et un autre à Anna Marmotta, et un autre à Smetila.
Ouais, parce qu'on juste un truc, c'est que quand il y a quelqu'un qui mange comme ça une répression d'État pendant 30 ans, il y a ses proches, en fait, qui mangent cette même répression. De la même manière qu'on parlait d'Adeline avec Romain, quoi. Et que du coup, les proches de Claudio Lavazza, ça fait 30 ans ou 26 ans qu'ils galèrent avec lui et qu'ils le soutiennent. Et du coup, c'est aussi important de leur apporter toute notre force, quoi.
Exactement.
On passe un petit coup de musique.
Ouais, merci à toi.
Ça marche, rendez-vous dans 2 semaines.
À dans 2 semaines, salut.
Plein de force.
Ciao.
If you love me, please don't judge me. Got my hands tied, the power's above me. Don't shoot the messenger, I'm just a puppet here. If you wanna place blame, then look to the puppeteer. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, borderline, felony, suicide, subtract, selfish, pedigree. When the love's gone and the hate's there, better watch out, cause it's cake thin. Your family ain't your family, and your legacy is just a name there. In your mother's eyes, it's a blank stare, but your father's picking who remains here. It's a power struggle, it's a tug of war that's amongst the kids, and it ain't fair. Yeah. Who gon' stop the pain? Who gon' block the drain? Who gon' stop the shame? We are not the same. Walking a tightrope in a lifeboat, nope. It's a free fall when I leave y'all, whoa. If you love me, please don't judge me. Got my hands tied, the power's above me. My bloodline was not chosen. Ooh. This bank account is not frozen. This thing of ours is not broken. What's understood is not spoken. If you love me, please don't judge me. Don't judge me. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on.
side, subtract, selfish, pedigree, yeah. Family, fortune, envy, jealousy, privilege, passed on, legacy, secret, sabotage, borderline, felony, suicide, subtract, selfish, pedigree, yeah.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envolée, comme tous les vendredis de 19h à 20h30. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e. Et pour nous appeler, c'est au 07 53 10 31 95. Ça, c'est pour le portable 24h sur 24, 7 jours sur 7, même après minuit. Et pour nous appeler sur le fixe, c'est au 01 40 05 06 10. Mais je pense que pour le moment, ce n'est point la peine d'appeler. Ce n'est point.
Salut Charlotte.
Parce que Charlotte est au téléphone. Salut Charlotte.
Salut.
Salut. Salut.
Ça va ?
Bonsoir à tous. Ça va ? Merci.
Bah oui, oui, oui. Merci de prendre le temps de venir nous parler un petit peu et tout. On l'a déjà redit au début de l'émission, mais il y a un rassemblement qui est organisé mercredi devant le tribunal de Meaux, avenue Saval de Rolende. Donc, c'est à midi, donc qui est le maximum de personnes, les gens qui sont à l'extérieur, qui peuvent être présentes et tout ça. Donc, c'était principalement pour ça que tu nous appelais, pour qu'on parle un peu de ce rassemblement, mais donc nous rappeler aussi pourquoi il y a lieu ce rassemblement. Peut-être que je te laisse dérouler.
Ouais. Je rappelle un peu les faits.
Ouais. Bah ouais.
Du coup, oui, nous, on organise un rassemblement mercredi prochain, le 19 janvier, devant le tribunal de Meaux, donc suite au décès de Marie Dimoni. Ça va bientôt faire un an, parce qu'il est décédé le 2 février 2021. Donc, il est décédé, il était incarcéré à la prison de Meaux, Meaux-Choconin, dans le 77. Et il a été, il a été tué par des matons, voilà, tout simplement. Il a été tué par des matons et aujourd'hui on arrive à un stade de l'enquête où on est un peu, même complètement dans un déni de justice, puisque Madame la juge pour l'instant ne met personne en tout cas en examen malgré pas mal de preuves qu'on a reçues depuis le drame. Donc, on organise ce rassemblement devant le tribunal pour réclamer les mises en examen, pour réclamer justice. Hein. Vous connaissez la chanson, c'est toujours un peu la même chose malheureusement. Et venir soutenir notre famille, nous aider, dénoncer ça.
Si tu es ancien prisonnier de Meaux-Choconin et que tu as vu quelque chose et que tu as envie d'en parler, c'est le moment, on sera présent sur place, on sera là et on sera s'il y a des témoignages en plus, c'est toujours bon pour la famille et très important que ça se sache, même si la vérité, on la connaît hein, déjà.
Mais c'est très important d'avoir la parole des prisonniers, ouais. Parce que là on l'a très très bien vu au procès de La Rochelle pour les meurtriers de Sambali, c'est que eux ils construisent leur histoire. Qui va permettre qu'ils prennent le moins cher juridiquement. Et donc, s'il n'y a pas la parole de prisonniers qui disent voilà ce qui s'est réellement passé, eux, ils vont construire une histoire parce qu'en fait, ils ont les faits. Vu qu'ils sont toujours interviewés par les enquêteurs a posteriori et tout ça, ils construisent déjà leur histoire, leur truc. Et donc, après, derrière, ils ont tout pour obtenir la relaxe, quoi. Donc c'est très important d'avoir la parole de l'intérieur. Et vous avez eu principalement des témoignages de surveillants
Ouais, voilà, c'est exactement nous. C'est vrai que les prisonniers, on a eu quelques retours de détenus, mais évidemment, ça s'est passé au mitard, comme d'habitude. Il n'y a pas beaucoup de prisonniers qui ont pu assister à la scène. Donc ça a été surtout des témoignages de surveillants qui nous ont contactés anonymement, qui ont contacté notre avocate, qui ont contacté même l'OIP, l'Observatoire international des prisons, pour dénoncer la vérité. Et d'ailleurs, on a pas mal de surveillants qui ont été dans leurs procès-verbaux, témoignent de la vérité, de ce qu'ils ont vu et des coups qu'a reçu Dimoni, du coup, du traitement qu'ils lui ont infligé, tu vois. Donc, euh, Donc ouais, nous c'est principalement des surveillants, et merci à eux d'ailleurs, on ne sait jamais s'ils nous écoutent, franchement.
Bah, en vrai, c'est
pas aujourd'hui.
Ouais, après, il y a eu des surveillants comme ça, voilà, ouais. Et il y a eu d'autres surveillants aussi.
C'est surtout une grande première, il y a eu les surveillants de la force pénitentiaire qui avaient fait un tract.
C'était la CGT, non?
C'était la CGT pénitentiaire.
Ouais, c'est pareil, c'est c'est syndicat, leur syndicat pourri. Hein.
Ouais,
bien pourri, ouais.
Ouais, parce que donc quand même ça a été un truc assez effroyable. Enfin voilà, vous étiez.
Inquiétant, c'est que les gens qui sont syndiqués en prison, ces matons là qui sont syndiqués, ils sont dans les bureaux, ils travaillent pas et donc ils voient pas ce qui s'est passé. Tu vois, ça veut dire que tu défends tes collègues et en plus t'as rien vu, poteau. Donc je comprends pas pourquoi. Reste dans ton bureau, t'es bien. Enfin, je sais pas. Reste. Je comprends pas ces gens-là. Voilà. Déjà, je les comprends pas en général, mais là, c'est.
Voilà. Ouais, parce que tu veux rappeler un peu ce qu'il y avait dans les communiqués des matons ?
Non, oui, c'est ça. Bah, de ce que je me rappelle, parce que. Rien que de lire.
Oui, tu leur lis pas tous les soirs.
Ouais, il est bon de les oublier des fois. Mmh.
Ouais. Ouais, bah, qu'est-ce qu'ils avaient dit ? Ouais, ils avaient dénoncé. C'est un courrier, ouais, de la CGT pénitentiaire où. Ils accusaient déjà mon mari en disant que c'était de sa faute, visiblement, ce qui s'était passé. Et ensuite, ils dénonçaient les surveillants qui étaient venus qui nous avaient contactés. Ils les insultaient de lâche, fait de dénoncer leurs collègues, de mentir sur leurs collègues, etc.
De donner leur identité.
Mais tellement aberrant, quoi. Mais aberrant.
Bah, là où c'est aberrant,
ils leur ont mis la pression, en fait, pour qu'ils arrêtent de parler, tu vois. Ils leur ont mis une très grosse pression... Pour pas qu'ils nous contactent et en plus on sait qu'il y en a plusieurs qui ont eu un petit peu peur, tu vois, même beaucoup.
Bah, si vous voulez un exemple de ce qui se passe aux surveillants qui dénoncent leurs collègues, regardez Virage violent de c'est ça, c'est
non,
violence des matons, je sais pas ce que c'est virage violent,
ouais.
Violence des matons, la loi du silence, et ouais, mais c'est pareil, virage violent, c'est du même acabit, en vrai c'est un lapsus révélateur, mais voilà, violence des matons, la loi du silence, et dedans il y a un surveillant qui témoigne de l'acharnement qu'il a subi sur ses collègues, et je pense que c'est pour ça que cette personne elle a témoigné anonymement.
C'est tout le problème, parce que bon, là c'est un peu différent, parce que petit à petit vous avez réussi à faire entrer ces lettres dans la procédure, mais le problème c'est que quand vous avez ces documents, ça permet de savoir exactement ce qu'il en est, quoi. Mais le truc c'est qu'après, derrière, les surveillants, quand ils seront devant le policier qui va faire l'enquête et tout ça, il va jamais dire la même chose. Voilà. Et donc après, derrière, c'est bien facile de faire ces petites lettres anonymes. Voilà. Mm-hmm. Mais après, derrière, quand tu es devant le flic, tu vas dire des choses un peu différentes ou quoi. Et ben, en fait, ça va pas participer à aider à ce que ces matons ils arrêtent de bosser dans cette tôle, genre de truc, quoi.
Qu'ils arrêtent de bosser tout court, en fait. C'est surtout ça.
Mais pourtant, nous, les surveillants qui ont dénoncé ça, il y en a, ils continuent, ils sont fermes devant la police, ils continuent à dire ce qu'ils ont vu. Hein. Oui, un tel l'a tapé, oui, un tel a fait ça, oui, il a frappé dans sa tête, etc., etc. Donc, ils continuent, ils maintiennent la version des faits. C'est pour ça que c'est d'autant plus aberrant que la juge ne fait rien. Ne fait rien, tu vois.
Et donc, ouais, c'est pour ça que, voilà, parce que quand même, il y a eu beaucoup, beaucoup de luttes, et vous avez vraiment organisé des trucs très importants. Peut-être on peut rappeler un petit peu de ce rassemblement qu'il y a eu devant la prison de Meaux.
C'est vrai que juste après, du coup, 4 ou 5 jours après le décès de mon mari, Dumouni, on a eu un rassemblement devant la prison de Meaux, où effectivement on était super nombreux, je crois que c'est 1000, presque 2000, je crois que c'est ce que tu me disais, c'était hier, la dernière fois, que moi j'en avais pas bien eu connaissance. Et ouais, rassemblement immense, franchement, on ne s'attendait pas à avoir autant de monde. Et déjà, tout le monde était un petit peu forcément révolté, mais on a vu, c'était un très beau rassemblement qui s'était déroulé devant la prison de Meaux-Choconin, du coup.
Très très longtemps qu'un rassemblement sur les morts suspectes ou les morts en détention n'avait pas été aussi peuplé, en fait, de gens contre l'administration pénitentiaire, et c'est magnifique. Vraiment, c'est très très beau, il faut que ça continue, que ça persiste, et pour ça, venez nombreux et nombreuses, et puis citer anciens prisonniers, puis citer t'es proche de famille et que ton proche il est encore à l'intérieur et qu'il sait pas comment faire pour contacter, c'est le moment là. Ouais. Venez nombreux.
Et l'autre truc qui avait aussi un peu ouf, c'est que c'était sur le domaine pénitentiaire de Meaux, quoi. Et donc en fait, on est allé chez eux, quoi. Voilà, on a allé jusqu'à la porte d'entrée, quoi. Voilà.
Exactement.
On leur a fait un peu coucou. voilà, ils n'étaient pas très très contents. Ce qui a valu un second tract de la CGT pénitentiaire. Mais c'était très impressionnant. Et en vrai, on n'a pas à souvenir d'un truc comme ça où on a pu se rapprocher autant de la tôle de manière forte, déterminée, tout ça. Et sur la fin aussi, il y a eu des cris avec des prisonniers sur le chemin du retour et tout ça. Voilà, donc c'était assez chouette.
C'est vrai que ça avait été super émouvant. On m'a envoyé même après des vidéos de l'intérieur de la prison où il faut savoir que les prisonniers à l'intérieur aussi avaient, ils avaient bloqué la promenade, je pense, toute la journée, hein, je crois, de 13h à 19h, quelque chose comme ça, hein, pour entre guillemets, rendre hommage à Timouni. Et jusqu'à ce qu'ils se sont fait menacer après, je pense, par les Zélac et compagnie. Mais ils avaient bloqué toute la journée et effectivement, ils criaient justice pour Timouni avec nous qui étions du coup dehors. Donc, c'était génial.
Et depuis, vous n'êtes pas non plus arrêté. Il y a eu principalement, vous avez été pas mal actif à travers le réseau d'entraide Vérité Justice.
Oui, c'est vrai, exactement. Et du coup, on a rejoint, le réseau qui nous avait contactés, qui nous ont aidés dans pas mal de démarches, pas mal de choses. Et on avait notamment organisé le 30 mai dernier. Un rassemblement à Paris, place de la République. C'était une journée nationale du coup contre les violences carcérales et militer pour l'abolition des mitards. Et c'était aussi du coup une journée hommage à Idir, qui est décédé au mitard de Lyon, comme c'était la journée que sa famille organisait pour lui. On avait voulu que ce soit le même jour et eux ils étaient à Lyon, nous à Paris. Il y avait même plusieurs rassemblements dans toute la France. Et je pense que ça devrait d'ailleurs rester une date nationale chaque année. Cette date-là, elle sera consacrée aux violences carcérales.
Ouais, c'était un vrai truc de ouf, parce que pour cette première, il y avait eu 5-6 rassemblements dans des villes en France et tout ça pour la première année. Mmh. Et c'était vraiment un truc de ouf. Tu avais lu un texte absolument incroyable qu'on avait diffusé à l'antenne, mais qui était vraiment très, 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 très chouette. Je crois qu'il y en a un petit bout dans le dernier journal, si mes souvenirs sont bons. Voilà, enfin, je me souviens qu'on l'avait retranscrit. Après, je ne sais plus ce qu'on en avait. Mais,
oui.
Voilà.
Oui,
il semble
que vous l'aviez repassé. Ouais.
Mais voilà, et c'était un texte important et qui mêlait bien en fait aussi tout ce qu'a permis aussi le réseau d'entraide de mettre en connexion et de comprendre comment la violence d'État elle commence par les flics et elle finit par la prison voilà et que c'est cette phrase que dit elle continue par le SPIP ouais. Et c'était cette phrase que disait Aurélie Garand qui dit voilà si les flics te courent après c'est parce qu'ils veulent te foutre en tôle et que bien souvent dans ces luttes contre les violences policières on oublie assez régulièrement ce qui se passe après voilà et toi tu faisais grave le lien dans ce truc et puis t'oubliais pas non plus ceux qui meurent de façon lente en prison ceux qui meurent par manque de soins on en parlera tout à l'heure ceux qui meurent d'oubli tout simplement parce qu'on les laisse crever à l'intérieur
par l'acharnement pénitentiaire le harcèlement psychologique et psychique et qu'on pousse parfois au suicide et qu'on dit banalement dans les journaux qu'il était suicidaire et qu'il s'est juste pendu voilà c'est quand même affreux de voir que la France elle rentre dans ce système et qu'elle cautionne et que votre combat est très fort parce qu'il est important de parler de ces mitards parce que personne et très peu de gens en cause et c'est une prison dans la prison c'est appelé le quartier disciplinaire mais c'est vraiment un endroit qui est à la vue de personne et en prison quand t'es par exemple, que quand tu es malade, que tu fais un malaise, il est préférable de faire un malaise en dehors de ta cellule pour avoir des témoins s'il t'arrive quelque chose et pour pouvoir être soigné. Parce que si tu es dans le nez de l'administration pénitentiaire, bah, tu crèves en cellule et on te dira que tu es mort par un manque de soins. Voilà. Et c'est super, super important parce que dans ces mitards-là, ben, y a rien qui se voit, il n'y a personne qui sait rien, il n'y a personne qui entend. Et voilà, c'est à part des prisonniers qui sont dans d'autres cellules. Bien évidemment, les caméras ne fonctionnent jamais quand c'est pour témoigner en faveur des vraies victimes.
Donc là, vous en êtes à attendre la mise en examen des matons.
Alors, ouais, bah voilà, exactement. On attend, qui pour l'instant n'arrive pas, parce qu'il y en a un seul, juste un qui a été placé sous statut de témoin assisté. Apparemment, bah, tout le monde me dit que c'est de la merde, quoi. Apparemment, c'est vraiment c'est le statut en dessous des mises en examen, et souvent ça n'aboutit pas. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on réclame. C'est pour ça qu'on a organisé le rassemblement le mercredi 19. Là, c'est un peu en stand-by. Après, voilà, l'enquête, elle est toujours en cours. On est toujours dans le cadre de la commission rogatoire, donc on attend encore des éléments. Mais c'est compliqué. Pour l'instant, ça s'annonce un petit peu compliqué.
Ouais, bah, de toute façon, on sait toujours que ces procédures, elles sont très, très longues. Voilà, même si y a eu différents changements d'avocat, vous avez été dès le début hyper attentif à tout ce qui allait se passer et tout ça. Et on peut espérer que ça porte ses fruits. Après, on sait très bien que c'est extrêmement long et ils font tout pour ralentir au maximum.
Ouais, mais là, il y a urgence. C'est quand même des gens de l'administration pénitentiaire qui dénoncent leurs collègues. C'est des bleus qui dénoncent les bleus. C'est quand même... il y a urgence.
Mais c'est ça, c'est incroyable. On se retrouve avec quand même des gens qui dénoncent d'autres, qui dénoncent leurs collègues, et il n'y a rien qui se passe. Il y a des choses tellement bizarres entre des vidéos qui se retrouvent, qui ont disparu des fichiers de la prison, supprimées, la caméra piéton, elle disparaît, on ne sait pas ce qu'il en est. Comme par hasard, elle arrête de filmer juste avant l'arrêt cardiaque de mon mari. Enfin, tu sais, il y a tellement de choses, c'est aberrant. Moi, j'arrive même pas à comprendre comment on peut en être là aujourd'hui, en fait. Je comprends pas.
C'est quand même. Incroyable.
Ouais, puis en vrai, bah, c'est pour ça qu'au début on parlait du procès là des matons qui ont tué Sambali. C'est que même quand les matons ils avouent avoir étranglé quelqu'un pendant 35 minutes et l'avoir tué, quoi.
35 minutes, tu vois. Et bah, t'as en fait, au bout de deux secondes, t'as des crampes.
Les réquisitions du proc, c'est du sursis et il n'y a pas d'interdiction d'exercer, quoi. Et donc, même si là, il y a des matons qui vont témoigner contre d'autres matons, et voilà, c'est rare, etc. En fait, il y a quand même peu de chances que la procédure elle amène quoi que ce soit au niveau pénal, quoi. Mais on le voit bien aussi sur tous les meurtres policiers, enfin. Quand il y a les preuves, au final la justice elle va venir blanchir les gens. Ces gens-là ils travaillent tous pour le même ministre, ils sont tous collègues en vrai.
Voilà.
Et donc bah, ils se couvrent tous parce que voilà, les juges ils ont besoin des matons pour continuer à enfermer en masse, ils ont besoin des flics pour leurs enquêtes et donc en fait ils sont potes, quoi. Enfin, et donc c'est quand même ça souvent sur lequel, enfin le truc sur lequel on bute, quoi.
Exactement, voilà. C'est pour ça que nous on appelle à se rassembler le mercredi pour essayer aussi de juste rappeler à Madame la juge et à tous ceux qui sont censés établir la justice un peu le code de la déontologie, parce que je pense qu'ils oublient un petit peu des fois quel est leur rôle.
Grave. Bah, de toute façon, c'est toujours un rapport de force. Voilà. Et donc, y a plein de manières d'établir ce rapport de force avec des avocats, avec la pression dans la rue, avec, avec plein de choses, quoi. Voilà. Et c'est aussi important de faire vivre ces histoires en dehors de la justice, parce qu'on sait malheureusement qu'en en fait, on n'ira pas trouver notre confort ou la solution, tu vois,
à attendre.
Non, et ça. Puis après, quand on aura le résultat, ça sera, enfin voilà quoi. Quand, enfin c'était assez clair que, enfin voilà, quand on a eu Oumu au téléphone par exemple qui nous parlait du procès de Sambali, bah voilà, le moment du procès est un moment affreux. Et après derrière, en plus, on sait que de toute façon, ils vont encore pouvoir être dans cette tôle, enfin plus être dans cette tôle en tout cas, mais continuer à bosser dans la pénitentiaire. Et donc ça change pas grand chose, mais donc voilà, donc continuer à faire vivre ces histoires aussi à l'extérieur de la justice. La justice, il faut y aller, mais il faut aussi faire vivre ailleurs, parce que sinon, il y a un moment, il y a trop de déceptions. Voilà, et donc c'est important de continuer à parler de ces histoires, de pas faire oublier ces noms. Voilà, et c'est ce qu'on continuera toujours à porter. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait cet appel au rassemblement qui devrait devenir annuel tous les ans fin mai, c'est quand même vraiment un truc très très chouette dans cette idée-là. Et puis aussi dire à la pénitentiaire, vous pouvez pas faire ça que dans le silence, quoi. Enfin, en fait, voilà, on vous surveille. Vous avez l'habitude que la pénitentiaire, vous fermiez tout le temps votre gueule, tout ça. Bah, la preuve, les communiqués de presse, la CGT pénitentiaire qui dit non, vous n'avez pas le droit de parler, et qu'appelle lâche ceux qui parlent. Donc, eux, ils ont l'habitude de mettre des coups de pression et puis d'être dans le silence. Et voilà. Et ben, nous, on les surveille, en fait.
Voilà. Nous aussi, on veut mettre des coups de pression, ça veut.
on balancera les noms quand il est le temps voulu.
Tu as tout dit.
Est-ce qu'il y avait un truc que tu voulais rajouter?
Est-ce que si les gens veulent te donner de la force et du soutien, vous avez une page, des réseaux, quelque chose qui peut...
Ouais, merci Sylvain de me le rappeler. Oui, carrément, pour ceux qui veulent nous suivre, vous avez nos pages sur les réseaux sociaux, donc principalement Instagram, mais vous avez aussi Facebook. Les deux pages, elles ont le nom de Justice pour Jimouni, donc vous avez juste à taper ça, Justice pour Jimouni, donc J-I-M-O-N-Y, parce que je sais que c'est pas un bon courant. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux et donc pour tous ceux aussi qui voudraient nous rejoindre, donc c'est le mercredi à Meaux devant le tribunal de Meaux, pour ceux qui veulent venir nous donner de la force, ne serait-ce que partager autour de vous, partager l'histoire, partager le rendez-vous, parce que c'est important, et donc voilà.
En tout cas, l'envolé sera présent et on sera près de vous et on lâchera rien, et puis c'est clair que justice pour Jimouni.
Ouais, merci infiniment de toujours votre soutien indéfectible. Franchement, merci.
T'inquiète, plein de force à toi Charlotte, puis aussi à tous les gens qui sont autour de toi,
en particulier à Cora. Je leur passerai le message.
Et puis on se voit mercredi de toute façon. Force pour ce week-end et tout ça, et n'hésite pas s'il y a besoin de quoi que ce soit.
Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup à vous.
À très bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler.
Merci.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Salut. On va passer un petit coup de musique.
Zik. Tu dis Zik.
C'est à ton tour. Hein.
Ah oui.
Aïe. Drogue, genre, business, avance, obsédé plus chiffré qu'avant. C'est trop tentant, fais pas le gravon. Tu veux me couiller, j'prends pas de vacances. Petit, j'avance, toi tu cravaches. Sydney, Clarence, sont sur Wawa. Y'a pas de mélange, j'fais bande à part. J'veux de mon argent, elle veut sa part. J'ai plus qu'avant, par ici savant. Des tonnes de savon, nous fais pas le savant. Tu fais plus de gens, j'ai pris tout tes yoyans. C'était y'a 100 ans, c'est que des cocos. Moi ça la cité, ça tartine à plein temps. Mes petits sont capuchés, même quand y'a le beau temps. J'pense à mon enfant, j'deviens trop méchant. Rabatteur et chante, il faut que ça augmente. Libérer mes sanguins, VAGA et Joe sanguin sont venus repartis sans dents. On fait sa preuve jamais sans gants. Pour le bif, on est prêt à descendre. On les met en cendre. Si tu veux qu'on s'entende, faut des billets, y'a pas de confiance, non? Ouais, drogue, genre, business, avance, obsédé plus chiffré qu'avant. C'est trop tentant, fais pas le gravon. Tu veux me couiller, j'prends pas de vacances. Petit, j'avance, toi tu cravaches. Sydney, Clarence sont sur Wawa, y'a pas de mélange. J'fais bande à part, j'veux de mon argent. Elle veut sa part, ouais. Lundi j'dors pas à la baraque, on sait jamais, tu connais, obligé. Non. Restez concentré, sinon ils te mettent au placard, enquête au QG. Aye. Je sais pas si t'as pigé, je trille un peu mais je suis pas obligé. Quand je suis vert, je me mets à teaser. Dans mes songes, dédicace, calcal, MA, 2S, Rinkoff, MH, Doudou, KZ, Somam, 34, Gambette, B2, Savlar, on trim encore, mais bon, ça va, son grand tourage, quelques dollars, t'es qu'un tocard, traîne pas trop tard. Y'a pas de magie, que du paplard, anti, gris-gris, anti-poudlard. Ouais, genre art, business, avance, obsédé plus, chiffré qu'avant, c'est trop tentant, fais pas le gravon, tu veux me couiller, je prends pas de vacances, petit, j'avance, toi tu cravaches. Sydney, Clarence sont sur Wawa. Y'a pas de mélange, j'fais bande à part. J'veux de mon argent, elle veut sa part. Elle nous paye. Aïe, 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 aïe. Gang, gang. Gang, gang.
d'être de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission L'Envoléa. Pour nous appeler, c'est au 01 40 05 06 10 ou au 07 53 10 31 95. On a un appel téléphonique de Sylvia et, et de femmes de détenus qui est un snap sur les réseaux sociaux. On ne donnera pas son prénom parce que voilà, c'est son souhait et que ce n'est pas le sujet. Sylvia, c'est la femme de Yacine qui est décédée à Villefranche. Alors, certains appelleront ça un manque de soins. Moi, j'appellerais un refus de soigner. Voilà, si tu veux, si tu veux en parler, Sylvia, c'est à toi.
Oui, bah, oui, je vais en parler. Parce que pour moi, je trouve ça inadmissible d'avoir laissé mon compagnon quelques jours sans insuline, en sachant qu'il était diabétique, en sachant qu'il a demandé beaucoup d'aide et que personne n'a rien fait, surtout les surveillants pénitentiaires et le centre, en gros, le personnel du centre pénitentiaire. Après, ce que je comprends pas, c'est que la direction ne m'a même pas prévenue. En gros, j'ai été prévenue par des
médecins,
heureusement qu'ils étaient là.
Tu peux nous dire quand est-ce que tu as appris que Yacine était, qu'il était transféré à l'hôpital, comment il a été transféré, enfin, comment tu l'as appris et combien de temps après l'administration pénitentiaire a daigné enfin t'appeler?
Eh ben, j'ai. Alors que Yacine était à l'hôpital, je l'ai su par des détenus. Deux détenus qui m'ont appelé et que franchement, grâce à eux, j'ai pu dire au revoir en gros à Yacine, ainsi que son frère et mon petit frère.
Ça veut dire que et sans les prisonniers incarcérés aujourd'hui qui ont des téléphones en détention, certes illégalement, mais qui est, ça, et qui est excessivement nécessaire puisque les téléphones en prison sont écoutés, ceux qui sont loués par l'administration pénitentiaire. Et encore une fois, c'est un bel élan de solidarité et vraiment
et c'est une prise de risque aussi
et
quoi,
c'est une prise
part.
De risque ouais. Et donc c'est grâce à eux que t'as pu savoir et que t'as dû déjà chercher où était Yacine en fait.
Bah au fait moi quand bah au fait moi mon Yacine de temps en temps il m'appelait. Okay. Et au fait moi quand j'ai eu ces appels téléphoniques, au début, je croyais que c'était lui, mais non, en fait, ça paraît que c'était pas lui. Mm-hmm. Quand j'ai eu les appels, les détenus étaient pas bien du tout. Ils m'ont demandé déjà si j'avais reçu les appels de la direction du centre pénitentiaire, que je n'ai pas eu du tout. Et que de nous-mêmes, on a dû chercher où était Yacine, à quel hôpital était, parce qu'ils renvoyaient tous la balle. Mm-hmm. Jusqu'à que son frère, un de ses frères, a su où il était. Et que là, le médecin étonné lui a demandé comment il l'avait su. C'est une question qui se pose pas déjà.
Non, c'est pas la question. En plus, c'est surtout pas. C'est très grave de poser cette question-là en tant que médecin. Déjà, d'une part, t'es pas flic, t'es docteur et tu devrais primer pour ça. Et de deux, c'est une famille en détresse qui t'appelle là. Donc
voilà. Et du coup, qu'après, il a eu directement le médecin qui s'occupait de Yacine et que là, il nous a expliqué la situation de Yacine, que en gros, son état était engagé quoi. Mm-hmm. Sa vie, en gros. En gros, il fallait pas qu'on garde espoir, qu'on pouvait venir le voir le lendemain, ce qu'on a fait directement, en fait. Et que je me dis que, au fait, sans ces détenus-là, qu'ils ont pris des risques, qu'ils prennent des risques, mais sans prendre ces risques, en fait, on n'aurait pas su, parce qu'ils auraient étouffé l'affaire, en sachant que moi, la direction de la détention de Villefranche, le centre pénitentiaire de Villefranche, m'a prévenu que le mardi, à 17h34, donc, mon compagnon était déjà décédé le lundi à 22h05 et qu'il était au centre hospitalier le dimanche 2. Et que ça s'est passé aux alentours de 14h30.
C'est immonde. Alors, à croire qu'ils ont véritablement de... Parce qu'en fait, il faut savoir que quand il y a un décès en détention, ils te mettent toute ta cellule en... Comment on appelle ça, sous scellé. Est-ce qu'ils ont fait le ménage? Est-ce qu'ils ont... pourquoi autant de temps? Pourquoi mettre autant de temps pour prévenir les proches? C'est très grave.
Ah oui, très grave. En sachant que moi, lundi matin, j'ai appelé directement sa SPIP, celle qui le suivait en détention, qui n'était même pas elle non plus au courant, qui n'avait reçu aucun mail, qui me demandait si j'étais sûre de ce que je racontais. Je lui ai dit, oui, si vous ne croyez pas, vous avez qu'à appeler directement l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Et que j'ai re-eu l'après-midi, et en gros, qui m'a dit qu'elle était surprise de ne pas avoir reçu un mail et de ne pas avoir connaissance de cette situation-là. Donc, moi, je trouve que... pour moi, je trouve ça honteux, au fait. Pour moi, c'est comme s'ils avaient voulu étouffer l'affaire.
Ah, c'est même pas comme s'ils avaient voulu.
On y est, ouais.
C'est complètement ça, bien sûr. Mais
parce que juste dire quand même, pour rappeler que quelqu'un, enfin une personne diabétique sans insuline, voilà, c'est criminel, quoi. Enfin, c'est vraiment et ton espérance de vie est vraiment en heure, quoi. Pour tout le monde, quoi. Donc voilà. Et qu'on fait les médecins, voilà. Enfin déjà, il faudrait savoir comment ça se passe, parce qu'on sait très bien comment ça se passait dans leur argumentaire. C'est, ils vont expliquer que c'est ton compagnon qui sait pas, que lui il avait accès à l'insuline, mais que c'est lui qui a refusé et tout. Enfin voilà, on sait déjà comment il fonctionne. Comment fonctionne l'administration pénitentiaire. Ils vont mettre la responsabilité, voilà, sur ton compagnon.
Chose qui est totalement impossible. Puisque
oui, en sachant que c'est totalement impossible, qu'il y a beaucoup de détenus qui disent comme quoi mon compagnon se plaignait, tapait à la porte, demandait de l'aide, le surveillant lui rigolait au nez, l'insultait, et que ainsi son co-détenu avec qui il était à ce moment-là en cellule, qui ne parle pas très bien le français, qui demandait aussi de l'aide pour Yacine, et qui n'ont rien fait.
De toute façon, cette défense si bête de refuser son médicament vital, alors que tout esprit critique, un minimum aiguisé, enfin, se dit bon, c'est juste des conneries, quoi. D'un système qui se protège, enfin, d'une administration qui est.
C'est affreux.
C'est du délire.
Et quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai demandé si tu avais demandé une contre-autopsie, et tu m'as répondu qu'effectivement, c'était pas la peine au vu du résultat, enfin, de celle qui est sortie. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette autopsie? Elle dit clairement que. Il est mort suite à un manque d'insuline.
Il est mort d'un arrêt cardiaque suite parce qu'il n'a pas eu son traitement d'insuline.
Et est-ce qu'il est spécifié, tu n'es pas obligé de répondre, hein, est-ce qu'il est spécifié combien de temps, si c'est combien de jours, est-ce qu'ils disent que ça c'est... En fait, combien de temps après tu décèdes quand tu n'as pas d'insuline, tu sais tout ça? Enfin, je ne sais pas, si quelqu'un sait.
Ça, je n'ai pas encore eu la cause, mais pour moi déjà... c'est pas possible qu'un diabétique de type 1, en sachant que ça fait 9 ans que je suis avec lui, qui peut se retrouver 2 jours dans un état, en gros, 2 jours comme ça. Moi, je pense bien qu'il est resté au moins 4 jours sans insuline.
C'est énorme. C'est énorme.
Énorme, très énorme.
Et si
tu sais comment ça se passait, si normalement, voilà, est-ce qu'il leur filait globalement de l'insuline pour une semaine, ou il l'en filait tous les jours, voilà. Après, ça faisait pas longtemps qu'il était arrivé à Villefranche, oui. peut-être que tu dois pas.
Ça, on en a parlé au téléphone hier quand je t'ai eu. C'est parce qu'en fait, dans certaines tôles, faut avoir été en prison pour connaître ça et comprendre ça, c'est que quand tu es malade, on va à Luxa, mais on te donne pas tout le temps ton traitement selon le traitement que tu as. Soit c'est une infirmière qui vient te l'apporter directement en cellule tous les jours. Par exemple, je pense notamment aux gens qui sont sous Subutex, ils ne vont pas lui donner ça. Voilà. Ils vont pas donner ça pendant une semaine, parce que sinon ils vont tout prendre d'un coup, tu captes. Donc ils vont venir tous les jours. Est-ce que pour l'insuline, puisqu'il y a des doses, tu vois, il y a des trucs à calculer, est-ce qu'il laissait accès à l'insuline, ou est-ce qu'il venait de lui apporter tous les jours? Et là, ça donne la donne, et ça c'est important de s'il y a des gens à l'intérieur qui peuvent témoigner, des anciens prisonniers, des prisonniers, des familles, quelqu'un qui peut nous renseigner sur ça, ce serait super important super cool, et notamment surtout aussi si vous pouvez apporter vos témoignages, parce qu'il faut arrêter de penser que ça n'arrive qu'aux autres, que demain t'es pas à l'abri de tomber malade, surtout à l'intérieur, toi-même tu sais. Et que vos témoignages sont primordiaux pour contrer ces gens de l'administration pénitentiaire qui appellent ça une faute professionnelle, ou une faute, ils appellent ça, moi j'appelle ça un refus de soigner, en fait. Voilà, c'est pas un manque de soins, c'est un refus de soigner. On a refusé à quelqu'un de donner son insuline et de prendre son traitement. Alors, sous quelle forme? Est-ce que, parce que plein de gens peuvent penser que Les gens peuvent penser que nous, en tant que prisonniers ou ex-prisonniers, on est parano ou on simule beaucoup. Mais moi, je pense que je t'explique une fouille de cellule. On te sort de ta cellule et on te met en cours de promenade. Et quand tu remontes de la promenade, on te met à ce moment-là à poil dans une pièce. C'est-à-dire qu'on te laisse aller en promenade. On te laisse partir l'esprit. Tu vois, tu sais pas que tu vas avoir cette fouille. C'est toujours surprise.
Ouais.
Est-ce qu'elle a été prise dans sa cellule, cette insuline ? Parce qu'il faut savoir que Yacine, Yacine, il ne sait pas faire non plus, tu vois. Quand il avait des choses à dire contre l'administration pénitentiaire, il la disait et ça ne plaisait pas tout le temps. Et on sait quelle sentence peut avoir les gens qui décident de faire valoir ses droits à l'intérieur. Donc, votre témoignage est primordial. Vas-y, Sylvie, excuse-moi.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'eux disent comme quoi il a besoin de traitement en cellule, peut-être, je ne sais pas. Mais comment ça se fait qu'il vient à se retrouver, à taper à la porte, à demander son asile ?
Ben moi, ce qui me semble étrange, c'est que l'administration pénitentiaire t'interdit de stocker des médicaments. Tu comprends ? Donc, et l'insuline, c'est quand même un produit assez, il faut doser, quoi. Et ça me paraît étrange qu'il ait qu'il ait une grosse quantité d'insuline dans sa cellule.
Puis il faut voir son niveau de diabète aussi juste avant. Enfin, faut c'est réguler. Ça. Donc en fait, il y a de toute façon un minimum d'appels et de surveillance.
C'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'ai coupé, Sylvia, excuse-moi.
Ah, oui, après moi, parce que pour moi, je trouve ça honteux. Il faut vraiment pas avoir de cœur, quoi. Là, parce qu'un diabétique, il faut savoir que quand il n'a pas son insuline, il souffre beaucoup. Ses muscles, ils se contractent, il vomit beaucoup. En fait, il souffre, quoi.
Non, puis toi, tu connais ton mari. Tu connais ton mari.
Et ça m'a tué, quoi. Ça m'a détruit de l'intérieur, tout ça, quoi.
Tu m'expliquais que ton mari ne supportait pas vomir et que ça donnait... Voilà, vas-y.
Oui, la phobie de vomir. C'est qu'il avait vraiment la phobie de vomir. Il détestait vomir. Ça m'a... Quand je sais... J'ai même pas les mots, en fait. C'est tellement honteux, ce qu'ils ont fait. Surtout... Je veux dire, c'est un détenu comme les autres. Je veux dire, même, on ne sait pas, peut-être... Après, un surveillant, il se fait insulter tous les jours par des détenus. Mais vous ne pouvez pas laisser quelqu'un souffrir et à la suite faire un arrêt cardiaque sans procéder au massage cardiaque.
Tu n'as pas le droit de te venger comme ça, en fait. Voilà, surtout. C'est pas parce que voilà, c'est ça. C'est même si tu te fais...
Sachant que moi, le médecin m'a bien dit qu'il avait fait 20 à 30 minutes en arrêt cardiaque. C'est le pompier qui l'ont réanimé, en fait. Son cœur est reparti 20 à 30 minutes après l'arrêt cardiaque.
Et est-ce que tu veux parler du fait de la promenade ? Ou pas ? Tu vois ce que je veux dire ?
Que quand ils ont dit en gros, en fait, moi... d'après ce qu'on m'a dit, je sais que c'est vrai. Je sais que je ne pense pas que ça remonte sur ça. En fait, ils ont ouvert la cellule pour la promenade.
Ouais.
Et leur effet, l'arrêt cardiaque à ce moment-là, en fait. Il y avait encore son co-détenu dans la cellule. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la sortie de promenade. Et après, ils ont dit, en gros, hein, pour eux, ils n'avaient pas vu monsieur Mébarquier en promenade. Du coup, ils sont retournés en cellule. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ils ont ouvert la cellule pour la promenade. Yacine a fait l'arrêt cardiaque. Ils ont sorti de la promenade et ils sont revenus après. Mmh. Donc, vous vous rendez compte, il a un arrêt cardiaque par terre, en fait.
Ouais, ils ont et sorti le co-détenu, le co-détenu en promenade et lui, ils l'ont laissé par terre. C'est ça. Et donc c'est encore plus qu'un manque de soins là, c'est non assistance en personne en danger, donc du coup tu as porté plainte.
Oui.
Et la plainte a été retenue.
Oui.
Mais pas avec les qualifications souhaitées.
Demandé.
Voilà.
Ce que je ne savais pas, c'est qu'on portait plainte contre une détention. Mmh. Faut qu'il fasse une demande au parquet. Que la gendarmerie ou le commissariat là où on porte plainte appelle le parquet pour savoir si le parquet est d'accord de prendre les notifications de notre plainte et le modifie. En fait, si ça leur convient pas, ils le modifient. Et moi, mon avocate, elle avait demandé homicide involontaire avec sans assistance à personne en danger. Et un troisième truc, mais je ne me rappelle plus. Et ils ont refusé, ils ont laissé que homicide involontaire contre la détention, mais pas contre le personnel, en sachant qu'on avait mis contre le personnel et la détention.
Bah, bien sûr, contre le personnel et l'administration pénitentiaire, c'est clair.
Voilà.
En tout cas, ils n'ont pas le droit de refuser. Si tu souhaites faire une plainte, que ce soit contre X ou autre, voilà, ils n'ont pas le droit de te la refuser.
Oui, mais elle peut être prise en compte ou pas.
Après, derrière, peut y avoir une procédure ou pas, le parquet peut suivre ou pas. Voilà. Mais en tout cas, si toi, tu veux faire une plainte en particulier, tu vois, si par exemple, tu as le nom d'un maton en particulier, où tu sais qu'il n'a pas, répondu présent, quand, voilà, donc qu'il savait que la personne était en danger de mort, ce genre de choses, voilà, tu peux. Je sais pas qu'est-ce que t'ont dit les keufs, qu'est-ce que t'ont dit. Voilà, en tout cas, c'est clair que c'est des. C'est souvent ce qu'ils font, hein. c'est assez classique, hein. pour éviter qu'il y ait des plaintes et tout ça, mais tu as le droit, voilà. Et si les keufs veulent pas les prendre, tu demandes à ce que ça soit ton avocate qui dirige la plainte, qui rédige la plainte, pardon, et qui l'envoie directement au procureur. Voilà quoi, il y a pas ça là-dessus, ils ont pas de pouvoir, hein. Voilà,
l'avocate, elle va la faire la modifier, elle va faire une
demande de requalification des faits.
Voilà, c'est ça.
Parce que toujours aussi sur la qualification des faits, enfin voilà, on va pas répéter ce qu'on a déjà répété des milliards de fois, mais dans l'affaire de Sambali, c'est le truc le plus important, quoi. Et tout ça se passe avant qu'il y ait un procès. Tout ça se passe dans le bureau d'un petit juge où personne ne voit ce qui se passe, mais par contre les conséquences après, en fait, on les connaît, et c'est celle de toujours minimiser la responsabilité juridique de ces personnes, quoi. Voilà, et donc dès le début, il faut être très attentif à toutes ces choses-là, quoi. Voilà, et c'est très très dur, parce que, et ils savent très bien, parce que c'est dans ces premiers moments que se jouent les choses les plus importantes, et c'est dans ces moments-là où c'est le plus dur, parce que voilà, on dort pas, enfin voilà, et c'est le moment où ils avancent, eux, voilà, et leur machine à se protéger, elle est déjà en route dès le début, quoi. Et c'est là où il faut que les avocats ils soient présents, s'il y a des proches autour de toi, et tout ça, pour pouvoir t'accompagner là-dedans, parce que c'est chaud, quoi. On sait que voilà.
Et puis surtout, les gars, je le répète et je le répéterai toujours, les gars, si vous savez quelque chose. N'hésitez pas à écrire à l'envolée, par exemple, au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, on transmettra, ou aller sur les réseaux sociaux, sur Snap, si vous voulez pas prendre de risques, ou faire, parce que moi, ce que je vous propose, c'est de pas passer la lettre par la voie normale, parce que bien évidemment, elle n'arrivera jamais, et là, vous allez prendre des risques. Donc, comme vous passez vos journées sur TikTok à racoler des meufs éventuellement, ce serait sympa de venir sur des snaps, et un snap très important qui fait beaucoup pour les prisonniers et qui est là pour vous et qui donne de la force. C'est alors femme de en chiffres détenue off. Femme de détenue off. Ce sera écrit sur le déroulé de l'émission et sur notre site, bien évidemment, pour que vous puissiez aller checker. Et puis, si vous êtes témoin, si c'est dire ce que vous savez, ce que vous voyez, si est-ce que c'est le médecin qui n'a pas donné le traitement, est-ce que c'est l'administration qui lui a pris, est-ce que comment fonctionne le médical là-bas, parce que chaque taux a un fonctionnement différent, et voilà, c'est faut arrêter de croire que ça n'arrive qu'aux autres, voilà, vraiment. Mais en plus, voilà, je ne vais pas répéter, mais
Sylvia, il y a un truc que tu voulais rajouter ?
Bah, oui, je remercie beaucoup Femmes de détenus qui me soutient. Tous les jours, on s'écrit, tout le temps, on prend des nouvelles. Et franchement, ça me touche beaucoup. Parce que, franchement, c'est une personne qui a pris une place dans mon cœur, parce que, en peu de temps, elle a fait beaucoup de choses. Elle me soutient. Je remercie toutes les personnes qui tous les jours prennent des nouvelles, qui sont j'ai prison la prison du 59 aussi du Nord, et qui prend tous les jours des nouvelles, qui soutient la famille et tout. En fait, il y a tellement de personnes que je veux remercier. Mm-hmm. Je remercie beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup de personnes, parce que j'ai beaucoup de soutien. Les femmes de détenues, franchement, j'oublierai pas ce qu'elles font pour moi. Et franchement, je remercie beaucoup, beaucoup pour tout.
Ouais, en tout cas, n'hésite pas si pareil, il y a besoin de quoi que ce soit et tout ça.
En tout cas, notre antenne, c'est la tienne, c'est la vôtre. Si tu as besoin.
Je vous remercie aussi de m'avoir laissé la parole.
Non,
ce
mais ça, c'est normal.
C'est super gentil.
C'est merci à toi de nous faire confiance. Parce que, voilà. Parce que c'est. Les gens peuvent nous considérer comme un média. Nous, on ne pense pas qu'on en est un. On est vraiment là pour transpirer la douleur des familles et des prisonniers. Et il est important que vous parliez, parce que sans vous, cette émission, elle n'existe pas. Voilà. Donc, merci à toi.
Après, moi, comme je dis à tout le monde, à un bout d'un moment, il faut arrêter de fermer les yeux. Mm-hmm. Parce qu'il reste encore des détenus en prison. Et il y a trop de détenus morts. Après, je ne dis pas tous dans la même situation, mais voilà, il faut penser à ces personnes-là qui restent enfermées. Et il faut qu'ils se soudent entre eux.
Grave.
Et voilà, parce que c'est bon, il y a eu trop de décès dans des prisons, et voilà quoi.
En tout cas, n'hésite pas, et puis voilà. Est-ce que tu veux nous dire autre chose ? Est-ce que tu veux nous dire autre chose de là, c'est après, on peut pas trop parler de l'affaire en elle-même, parce que c'est le début et qu'on ne veut pas donner des éléments assez surveillants, véreux et administration pénitentiaire bien pourrite et bien corrompue. Donc en tout cas, il y a des choses qui prouvent que l'administration est coupable. Et les preuves sont bien dans les mains de qui de droit, voilà. Sachez-le.
Et dans tous les cas, c'est toujours l'administration pénitentiaire qui est responsable quand il y a un mort, parce qu'en fait, c'est elle qui enferme les gens, et donc c'est à elle de gérer le fait que les gens y restent en vie, quoi. Et quelle que soit la raison, que ce soit par la violence des matons, comme avec Jimony, que ce soit par refus de soins, comme pour ton compagnon, quand c'est un suicide aussi, en fait, l'isolement et l'incarcération, ça pousse au suicide. Et du coup, c'est toujours eux les responsables, et ça, on l'oubliera pas, quoi.
Et là, ils peuvent pas, parce que généralement, tu sais, après 19h, c'est la fermeture des portes électroniques, et donc c'est un gradé qui a les clés. Là, on peut pas nous inventer cet argument-là. Là, l'administration pénitentiaire, elle est en fonction de plein fouet. Ça veut dire qu'il y a des matons dans toutes les ailes. Ils peuvent ouvrir à tout moment, appuyer sur le bouton. Ça crie, tu comprends, ça crie en cellule en disant aidez cet homme qui est malade. Parce que, pareil, quand on parlait hier, quand tu es en prison, et que je le répète souvent ici, quand tu es en cellule, tu peux ne pas t'entendre avec une personne, mais en cellule, il y a plus d'animosité. Il y a quelqu'un qui est malade et qui est en danger, et donc on crie tous. Et ces cris à 14h ou à l'heure de la promenade, 13h30 ou voilà, ou je sais pas à quelle heure, même à 3h, bref, en plein mouvement de la détention, elle est là. Tu comprends ? Et ils ont entendu et ils sont au courant, et 30 minutes, c'est long. Sur une aile où il y a des surveillants, où il y a un rond-point, et un rond-point, c'est un endroit où le prisonnier doit montrer sa carte de prisonnier ou prisonnière pour dire où tu vas. Si tu vas au médical, tu vas à ce rond-point, tu dis bonjour, je vais au médical. C'est quoi votre nom ? Mon nom, c'est ça. Tu vois ? Donc, c'est très enfantisé, la bataille. Et du coup, il y a quelqu'un qui est à ce rond-point, à cette personne-là. Là. Elle faisait quoi ? C'est-à-dire qu'elle est au bout de l'aile. Tu l'entends pas crier ? Tu n'entends pas les gens crier ? Et donc, il y a quelque chose qui s'est passé et on le sait. Il n'y a personne qui va pouvoir nier l'évidence. Donc, il va falloir s'expliquer.
Ah bah c'est sûr, parce que quand même, pendant 3 jours, taper et demander de l'aide et ne rien faire, que ce soit en journée, de toute façon, ça dure sur la journée. Ouais, même la nuit, c'est que c'est eux, pour moi, c'est eux les fautifs.
Pour tout le monde.
Bien sûr.
C'est évident que c'est eux les responsables.
Il n'y a même pas photo.
Ah oui.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton appel.
Ouais, merci à toi.
On te donne toute la force possible. Et on continue d'être en contact.
Snap, femme de détenue off, si vous avez des témoignages et que...
Vous nous contactez et nous aussi, on relayera. Voilà. Et merci beaucoup, plein de force. Et on se tient au courant. Et de toute façon, cette antenne, elle est à toi. Donc, dès qu'il y a des avancées, dès qu'il y a autre chose à dire, tu sais que tu t'appelles, quoi.
N'hésite pas.
Merci.
Ça marche ?
Merci.
Je vous fais un gros bisou, les filles.
En tout cas.
Merci à toi. Et force, courage et puis détermination, voilà.
Ah là, je vais rien lâcher.
Ouais, mais c'est clair, je sais. Je t'embrasse.
À bientôt. De toute façon, je vous appelle après. Après l'émission, je vous appelle.
Oui.
Ciao, à tout à l'heure.
Salut.
Alors, on voulait terminer l'émission vite fait par un appel pour un camarade qui s'est fait arrêter à la frontière franco-italienne. Ça fait plusieurs semaines qu'on aurait dû le faire. C'est Emilio Scalzo, c'est quelqu'un qui a été très présent dans les luttes notaves, donc contre la construction du TGV entre Lyon et Turin, mais qui a été aussi très très présent en fait dans les luttes qui se passent depuis plus d'un an et demi à la frontière franco-italienne. C'est quelqu'un voilà qui a été de toutes les manifs, qui a enfin toutes les manières d'être solidaire en ouvrant les lieux, en étant présent dans les lieux, en comprenant par où passent les keufs, etc. Et c'est pas le premier à se faire arrêter dans le cadre de cette lutte. Là, il a été désigné comme responsable. Enfin, en gros, il l'accuse de violence sur gendarme, quoi. C'est un vieux camarade de la région. Enfin, il a 67 balais, quoi. Et il a été arrêté en Italie par la DIGOS, c'est la police politique là-bas, assigné à résidence pendant plus de 2 mois. Puis ils sont venus le choper chez lui après avoir cerné le quartier pour l'extrader en France. Et depuis au moins 1 mois, il est à Aix-Luynes. C'est-à-dire qu'ils l'ont transféré en France et que maintenant, il est dans une tôle. Évidemment, ils ne l'ont pas mis dans une tôle proche de la frontière pour pas que les soutiens, pour pas que tous ses potes puissent venir le soutenir. Mais il y a un appel à solidarité. Il y a des actions qui auront lieu et qui ont déjà eu lieu. Et il y a d'abord un appel, comme on le dit souvent, à lui écrire pour montrer aux matons et aux matones qu'il est soutenu, au procureur, et surtout pour lui donner de la force à lui. Donc c'est Emilio Scalzo. S-C-A-L-Z-O, numéro d'écrou 89 145, c'est la maison d'arrêt Aix-Luynes, c'est 70 route des châteaux du Mont-Robert, CS 20 600, et donc c'est 13 595 Aix-en-Provence, CEDEX 3. Pareil, ce sera dans le fil de l'émission, mais c'est pas la première fois qu'il y a de la répression et des transferts disciplinaires, enfin, ou des transferts après loin. Ça fait suite à une manifestation qui avait eu lieu parce que le dernier refuge de la zone qui était à Oulx s'était fait expulser violemment. Il y avait eu des interdictions de territoire pour les Français qui y participaient. Et ça arrive aussi dans une période de militarisation encore plus vénère de cette zone de frontière où il n'y a plus de lieu, ni côté français, ni côté italien, pour venir en aide à tous les gens qui veulent passer la frontière. Et ça arrive aussi, donc là il est en tôle depuis plus longtemps, mais c'est aussi le moment de rappeler que le 2 janvier, on a encore trouvé quelqu'un mort dans le froid à la frontière franco-italienne. On y reviendra peut-être plus longtemps, là je suis désolé, j'ai pas noté le nom et tout, mais en tout cas je pense que c'est hyper important de faire vivre ces histoires, à la fois la sienne, c'est-à-dire la répression des personnes qui sont solidaires avec ou sans papier, et de faire vivre aussi les histoires de toutes ces personnes qui meurent aux frontières chaque année. Parce que l'État français a décidé de militariser la zone et force les gens à aller de plus en plus loin dans la montagne pour les Veschi et utilise des pratiques de plus en plus dingues avec des visées thermiques, enfin des lunettes thermiques, de la chasse, enfin voilà, de la chasse avec des keufs en civil qui se cachent dans la montagne et qui vont pécho les gens, beaucoup de violences policières et encore une fois une grosse entente entre keufs français et keufs italiens. Et du coup on apporte beaucoup de force aux copains, quoi. On sait que c'est un camarade, quoi, et donc on pense à lui. Et on continuera de donner de ses nouvelles. On espère qu'il va être libéré le plus rapidement possible et qu'il pourra rentrer chez lui, voir ses proches. Parce qu'en attendant, la lutte du notaire va la reprendre, parce que le projet l'a repris. Et qu'à la frontière, en fait, même s'il n'y a plus de lieu, même s'il y a la répression, les gens ils sont encore là à essayer de faire en sorte de lutter contre la militarisation de la frontière et d'éviter des morts, qui arrivent chaque année, quoi. Je crois qu'on a plus de 5 depuis l'année dernière, juste entre la zone de Briançon et de Clavière, sans compter tous les gens qui sont morts du côté de Calais, etc. Et ça, c'est juste pour les frontières franco, enfin, autour de la France, quoi. Et donc, on voulait lui apporter beaucoup, beaucoup de force. Ouais, peut-être on va finir l'émission par les coucous.
Ouais, il y a des casse-dettes de K. Force à tous, les potes en cage. Kémy, ravi que la baveuse ait enfin réussi à te sortir d'isolement. Je ramène le champagne au prochain parlu. Force aux familles, tous pour Jimoni, mercredi midi à Meaux.
Ouais, moi je voulais passer un gros big up à Fabrice, Simer, pour la lettre qu'on a reçue la dernière fois. Yuri, je suis désolé parce que les émissions elles sont chargées, mais on va lancer l'appel à t'écrire et les choses on va pas les lâcher. En tout cas, l'infâme, on se voit dans pas longtemps et on pense fort à toi. Flo, pareil, on espère que tu nous entends toujours de Bois d'Arcy. N'hésite pas à donner des nouvelles, en tout cas, pareil, plein de force. Youssef, on sait que tu as été transféré et que tu ne nous écoutes plus, et que ça te fait aussi un peu chier. Et bah voilà, en tout cas, merci pour toutes tes lettres. On continuera de donner le maximum de force. On sait qu'ils t'ont fait chier au moment du transfert, on en parlera la semaine prochaine. Au poteau qui est allé en cours, évidemment à Claudio Lavazza et à ses proches, dont on parle depuis la semaine dernière. Et bah, Emilio, voilà, plein de force, poteau, quoi.
Bah, moi, c'est à tous les prisonniers, prisonnières de France. Une petite pensée à Martial, Ouria, putain, Manouche, ça fait longtemps. Et puis Ali, et puis tous ceux que j'oublie, et Raph Flo aussi, ça fait je vais pas, Libre Flo, pardon. Je sais pas pourquoi Raph Flo, tu sais pourquoi, ouais, laisse tomber, je suis déglinguée, je vous dis, je suis fatiguée, j'ai la pression de la mission qui relâche. À la semaine prochaine, coucou.
Ciao, ciao.
Et puis coucou.
Non, bah, rediffusion.
On pense aussi à tous les proches qui sont derrière tout le monde, quoi.
Exactement.
Et donc c'est rediffusion mercredi matin, 8h30, et en attendant...
Force, courage et détermination, et bien évidemment, il n'y a pas d'arrangement.
Viens, comment ça se voit la souterraine?
Les infos viennent des balances, non pas David Pujadas. Niveau sous ça a pas changé, je vais en faire plus jadis. C'est nous les mecs de la tête, sans cesse tu veux ce qui est comme le DAS. Car à ta famille sûrement on a déjà fait préjudice. J'ai pas connu la fac, ni les cours de philo, hein. Quand y'a Heja, j'étais pas de ceux qui se défilaient. J'étais dehors comme d'hab à la recherche des filons. Fallait pas laisser les paluches, alors les gants je les enfilais. Les problèmes je les affrontais seul, derrière la vie de centain. Je voulais que des billets, je calculais même plus ma santé. Quand la ruelle t'aboie, poteau, elle met pas de fond de teint. Combien de fois pour le bien de mamie, frérot, j'ai dû m'absenter. Je côtoie encore mes vrais poteaux, les autres je les connais pas. Je dois tout à celle qui m'a fait faire mes premiers pas. Un conseil au petit de la tête, faites vos sous, traînez pas. Et quand y'a Haja, surtout portez vos coups, paniquez pas. Et ouais, des hauts et des bas. On a grandi, c'est fini l'époque des billes. Ça t'allume, cache ta mère, poteau, ça fait pas de débat. T'as capté que je te parle pas de connexion quand je veux au débit. Moi je suis constamment dans la tête, sans arrêt je fais mon rallye. Faut que je mette de déco. Ils parlent de deux boîtes de valises, je les connais, c'est des comiques, rien qui ramasse les mégots. T'inquiète pas que la rue je l'ai rodé, hein, je suis encore dedans. Au milieu des slacks désodés. Faut que tu le saches, c'est important. C'était l'été, je me faisais courser, j'étais en claquette. J'avais bonbonne et puis plaquette. Ils font les gros, c'était ta bête. Dans la rue, tout le monde est calme, mais la plupart ont un CV. T'inquiète pas que j'avais déjà 16 billes, je faisais tout rouge jusqu'à Séville. Je vais pas te faire le mytho à dire que je tapais des grecs à 12. Je faisais mes plans en touche, mais un smic dans Canada Goose. M du lait, j'étais pépère. J'avais tout, je manquais de rien. En même temps, je tapais TP. Je faisais pas le galérien. Je m'en bats les couilles. Des gros culs et des fossiles. Faudrait que je coffre mon champ avant que je devienne un fossile. Depuis tu peux, moi, j'arpente les chemins hostiles. Ça te sert selon ton style, c'est la rue, on fait pas style. Qui t'a fumé comme la caisse du poteau, mais qu'elle est bornée. Je pars au descend permis trop F-lit pour que tu puisses nous berner. Les keufs de merde qui peuvent pas nous cerner. Attendez de mon plafond comme d'hab pour venir nous cerner. Moi je suis constamment dans la tête, sans arrêt je fais mon rallye. Faut que je mette de déco. Ils parlent de deux boîtes de valises, je les connais, c'est des comiques, rien qui ramasse les mégots. Moi je suis constamment dans la tête, sans arrêt je fais mon rallye, faut que je mette de déco. Ils parlent de deux boîtes de valises, je les connais, c'est des comiques, rien qui ramasse les mégots. T'inquiète pas que la rue je l'ai rodé, hein, je suis encore dedans. Au milieu des schlacs désodés, faut que tu le saches, c'est important. Moi je suis constamment dans la tête, sans arrêt je fais mon rallye, faut que je mette de déco. Ils parlent de deux boîtes de valises, je les connais, c'est des comiques, rien qui ramasse les mégots. T'inquiète pas que la rue je l'ai rodé, hein, je suis encore dedans. Au milieu des schlacks désodés, faut que tu le saches, c'est important.